Un des enseignements religieux classiques est le jugement dernier. Tout le monde en a au moins vaguement entendu parler. Ce qui est moins connu est qu'il aura lieu à la fin du millénium et que seuls les non-croyants seront appelés à la barre. Mais bien avant ce rendez-vous fatidique aura lieu le jugement des nations. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre de Joël. « Je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au milieu des nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. » Verset 2. Plus de 8 siècles avant l'ère chrétienne, Josaphat, roi de Juda, avait remporté une brillante victoire contre une coalition de nations voisines, les Édomites, Moabites et Ammonites, qui avaient attaqué le royaume de Juda. Le lieu de la confrontation fut alors surnommé « Vallée de la Bénédiction » parce qu'au lieu de tirer l'épée, les Israélites avaient entonné des cantiques de louange. Alors l'Éternel a semé la zizanie dans les rangs ennemis qui se sont entretués. Joël fait allusion à cette victoire en renommant cet endroit « Vallée de Josaphat », un mot qui veut dire « l'Éternel juge ». Le mot que Joël utilise pour « vallée » signifie « très large vallée ». Il pourrait s'agir de la partie ouest du Cédron, aussi appelée « vallée de la plaine » ou « vallée du roi ». Cela dit, la vallée de Josaphat est avant tout un nom symbolique. Ce n'est pas le lieu géographique qui compte vraiment, mais ce qu'il évoque. Nous avons donc ici une grande victoire du passé de Juda que Joël a tissée à l'intérieur d'une prophétie qui s'accomplira le jour de l'Éternel. Tout comme Dieu avait alors délivré Israël des peuples voisins coalisés, à la fin des temps, le Messie anéantira la fédération de nations liguées contre son peuple. Tôt ou tard, l'Éternel finit toujours par prendre la défense d'Israël. Ici, la raison invoquée est liée à la façon dont les gens du Proche-Orient ancien concevaient le monde spirituel. Dans leur mentalité, faire la guerre à un peuple, c'était aussi attaquer ses dieux. Même si c'est l'Éternel en personne qui a incité les nations étrangères à frapper son peuple, celles-ci sont coupables de ne pas avoir reconnu la souveraineté du Dieu unique et vrai, et aussi responsables d'avoir traité le peuple de Dieu avec cruauté. Il s'ensuit que tous ceux qui s'en sont pris à Israël, qui l'ont dispersé au milieu des nations et qui se sont partagés son pays, vont avoir maille à partir avec l'Éternel son Dieu. Je continue le texte. Ils se sont partagés en les tirant au sort, les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils ont bu. Verset 3. Selon l'usage de l'époque, les vainqueurs partageaient les prisonniers capturés en les tirant au sort. Lors du sac de Jérusalem en l'an 70, 500 000 juifs furent massacrés et 100 000 vendus à des prix dérisoires et condamnés aux travaux forcés à perpétuité dans des mines. Un petit garçon juif était le prix d'une passe avec une prostituée et une petite fille s'échangeait contre un verre de vin. C'est scandaleux, mais aujourd'hui on fait bien pire puisque dans certains pays, le trafic d'enfants approvisionne des marchés d'esclaves pour l'industrie du sexe en toute impunité. Je continue. Et vous, Tyr et Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous venger sur moi? Voulez-vous vous venger sur moi ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Verset 4. Joël prend des peuples voisins comme exemple de malveillance envers Israël en dénonçant leurs crimes et annonce leur châtiment. Il veut montrer par là les raisons pour lesquelles ces nations seront jugées au jour de l'Éternel grand et terrible. Les Philistins avaient souvent mis les villes de Juda à sac. Tyr, était une ville phénicienne importante de la côte méditerranéenne au nord-ouest d'Israël. Elle était construite en partie sur la terre ferme et en partie sur un îlot proche. C'était le plus grand centre commercial du monde antique. Tyr avait établi des colonies en Asie mineure, en Grèce, à Chypre, en Afrique, à Carthage et en Espagne, à Tarsis. Sidon aussi était une ville phénicienne. Elle était située à 35 km au nord de Tyr. Comme la Phénicie était une importante puissance maritime, elle avait des ennemis. Au cours de leur histoire, Tyr et Sidon ont connu plusieurs destructions. Tyr a été partiellement détruite par les Assyriens, puis par les Babyloniens. Finalement, Alexandre le Grand a conquis l'îlot qui lui résistait et a vendu 13 000 Tyriens en esclavage. Ces deux villes font aujourd'hui partie du Liban. Je continue le texte. « Vous avez dérobé mon argent et mon or. Vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans vos temples. Et vous avez vendu les habitants de Judée et de Jérusalem aux Ioniens pour qu'ils soient éloignés de leur pays. » Versets 5 et 6. Un autre prophète associe les Ioniens à Tubal et Méchec, des nations coalisées contre le peuple de Dieu. Les Ioniens avaient colonisé les côtes de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Ils achetaient leurs esclaves aux Phéniciens avec qui ils entretenaient des relations commerciales et qui servaient d'intermédiaires dans le trafic d'esclaves de la manière suivante. Les Philistins attaquaient Juda et vendaient leurs captifs aux Phéniciens qui les revendaient aux Grecs ioniens. Les Arabes pillards faisaient des razzias un peu partout, dont dans le royaume de Juda, puis même scénario, ils vendaient leurs prisonniers aux Phéniciens qui les revendaient aux Ioniens. Pour un juif qui se retrouvait esclave dans un pays aussi éloigné que l'Asie mineure, c'était le comble du malheur parce qu'il était à la fois privé de ses racines, de sa patrie et du culte, et il avait bien peu de chances de revenir un jour en terre d'Israël. Je continue. « Eh bien moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous, vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui le déclare. » Versets 7 et 8. Les Sabéens étaient un peuple de marchands nomades qui habitaient le sud de l'Arabie et qui vivaient de razzia et de commerce. Œil pour œil et dent pour dent. Tout comme les Israélites ont été vendus et exilés à l'ouest en Asie mineure, la même chose arrivera à leurs ennemis qui seront vendus et déportés dans l'est en Arabie. Pour ce qui est de l'accomplissement de ces prophéties, l'histoire antique nous donne quelques informations. En ce qui concerne les Philistins, on sait que les rois de Juda, Ozias et Ézéchias, les vainquirent, mais on ignore ce qu'ils ont fait de leurs prisonniers. Pour ce qui est des Israélites exilés, selon l'historien juif Joseph, Alexandre le Grand et ses successeurs rendirent la liberté à ceux qui étaient captifs dans leur pays. En ce qui concerne les Phéniciens, au IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Maccabées, les Juifs réussirent à vaincre le roi de Syrie, Antiochus Épiphane IV, et prirent le contrôle d'une partie de la Phénicie. Je continue le texte. « Proclamez ceci aux nations !» Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. Verset 9. C'est Dieu lui-même qui convoque toutes les nations à envahir la Palestine et attaquer son peuple afin de pouvoir les juger toutes ensemble. À cette époque, certaines formalités religieuses accompagnaient la préparation à la guerre aussi bien chez les nations païennes qu'en Israël. Je continue. de vos socs forgez des épées, et de vos faucilles des lances, que le plus faible clame « Moi, je suis un héros !» Verset 10. L'enthousiasme lié à ce conflit est tel que même les poltrons veulent faire partie de l'empoignade, et les paysans abandonnent les champs et transforment leurs instruments de travail en armes de guerre. Deux autres prophètes reprennent l'image du prophète Joël, mais en sens inverse, parce qu'ils parlent du millénium. Ils écrivent « Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. » Je continue le texte. « Hâtez-vous et venez, vous tous les peuples de partout, rassemblez-vous, ô Éternel, toi, fais descendre tes guerriers. » Verset 11. Joël fait un jeu de mots avec les verbes monter et descendre. Précédemment, il a dit « Oui, que tous les soldats montent au combat. » Ici, dans sa courte invocation, il demande à l'Éternel « Fais descendre tes guerriers. » Il s'agit des légions d'anges qui sont souvent mentionnées dans les Écritures. Je continue le texte. « Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations de partout. » Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. Versets 12 et 13. C'est l'Éternel en personne qui, à la tête de ses armées célestes, part à la guerre pour régler ses comptes avec la coalition des nations du monde, mise sur pied par l'Antéchrist. Ce conflit qui a lieu dans la vallée de Josaphat est en fait la bataille d'Armageddon. Les deux images de la moisson et de la vendange comme symbole de jugement sont reprises par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Je continue. « Oh, quelle foule dans le val du verdict ! Le jour de l'Éternel est proche dans le val du verdict. » Verset 14. Ces foules en armes s'imaginent engagées dans une conquête facile de Jérusalem où les Israélites se sont barricadés. Mais en réalité, ces foules se rendent dans une cour d'assises où elles seront jugées et exécutées. En hébreu, le mot pour « verdict » veut aussi dire « ers » et fait penser au supplice terrible qui consiste à faire passer une herse sur des soldats ennemis couchés au sol. Le jour de l'Éternel est proche dans le sens que l'invasion de sauterelles est un signe avant-coureur qu'il aura bien lieu et que l'humanité s'achemine inexorablement vers ce jour grand et terrible. Je continue. Le soleil et la lune sont obscurcis, les astres perdent leur éclat. Verset 15. Des masses d'humanité pénètrent dans le val du verdict et se dirigent vers Jérusalem. Juste avant que l'Éternel n'intervienne, les astres s'associent à son acte solennel de jugement. Par pudeur, le rideau a été tiré sur cette scène de destruction qui n'est donc pas décrite. Je continue. Il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem, il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, il est une retraite pour les Israélites. Verset 16. Lorsque dans les solitudes du désert, le lion rugit prêt à bondir sur sa proie, ça vous glace le sang. De même, la voix de l'Éternel épouvante même les cieux et la terre. Mais ce qui fait trembler les nations rassure les fidèles à l'Éternel parce qu'il est leur refuge et leur forteresse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend les paroles de Joël et dit « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Cet ébranlement sert à marquer d'une part la transition entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ et d'autre part l'instauration du royaume de mille ans du Christ sur terre. Quand Jésus agonisait sur la croix, la région environnante fut plongée dans les ténèbres. Et quand il reviendra pour établir son royaume, sa venue sera accompagnée de cataclysmes cosmiques. Je continue le texte. « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint mont. Jérusalem sera sainte, et plus jamais les étrangers n'y passeront. » Verset 17. D'une part, Jérusalem ne sera plus jamais attaquée par des nations ennemies, et d'autre part, la ville sera fermée aux non-croyants. En effet, sous l'Ancienne Alliance, seul le temple de Jérusalem était considéré comme un lieu saint. Le prophète annonce ici l'extension de cette sainteté à toute la ville, ce qui veut dire que l'Éternel en fera sa résidence principale, pour ainsi dire. Ce nouvel ordre des choses accompagne l'élargissement du don de l'Esprit de Dieu à tous les membres de son peuple. Sous l'Ancienne Alliance, il était interdit aux étrangers d'entrer dans le temple et ils devaient rester dans une cour spécialement conçue pour eux. Comme toute la ville de Jérusalem sera déclarée sainte, elle sera aussi cité interdite aux incrédules afin de préserver sa pureté et lui assurer paix et sécurité. Cette règle sera en vigueur pendant tout le millénium. Il faut savoir que même si seuls des croyants entreront dans le royaume, ils auront des enfants. Or, parmi eux, beaucoup refuseront de se soumettre au Christ, et vers la fin de son règne, ils iront même jusqu'à se rebeller contre lui. Satan sera alors relâché de sa prison et prendra la tête de cette insurrection. Il y aura alors un dernier conflit, après quoi se tiendra le jugement dernier, appelé « Jugement du grand trône blanc » et qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Tous ces événements font partie du jour de l'Éternel. Je continue. « Alors, en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source » et elle arrosera le val des Acacias. Verset 18. Le jugement des nations a eu lieu et nous sommes dans le millénium. Les images que Joël utilise pour décrire ses bénédictions correspondent au langage habituel de l'Ancienne Alliance qui représentait la terre promise comme un pays ruisselant de lait et de miel. L'abondance et la fertilité rappellent le paradis et compense largement les calamités passées, comme les sauterelles, dont le souvenir est toujours bien présent dans l'esprit des habitants de Juda. Le val des Acacias que mentionne Joël est la vallée du Cédron au-dessus de son embouchure dans la mer Morte. Ce torrent, qui est à sec la plus grande partie de l'année, passe aussi au pied de la colline du Temple. Pendant le millénium, grâce à ses méandres, ce torrent arrosera toute la région. Mais cette source d'eau a aussi une signification symbolique, car c'est une image de l'Esprit de Dieu qui étend son action purificatrice en tout lieu. Jésus avait probablement ce passage de Joël en tête quand il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ce sont les grâces spirituelles qui apporteront les bénédictions temporelles. Je continue le texte. L'Égypte deviendra une désolation et Édom un désert à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens, dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. Verset 19. Cette nouvelle annonce de jugement correspond à la première phase du jour de l'Éternel. Joël voit la rétribution divine sous des formes empruntées à l'histoire d'Israël. En tant que premier oppresseur d'Israël, l'Égypte est le chef de file des nations qui persécutent le peuple de Dieu. De plus, le pharaon Shishak avait récemment attaqué Juda, conquis 150 villes et villages, et prit tout l'or et l'argent, plus de 300 tonnes, que le roi Salomon avait entassées. Édom est la nation type rejetée par Dieu, comme le fut Ésaü, l'ancêtre fondateur et frère de Jacob. Édom et l'Égypte symbolisent le sort final du monde ennemi de Dieu et de son peuple. Je finis le livre de Joël. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Versets 20 et 21. La ligne de démarcation tracée par Dieu entre ses fidèles et les nations ennemies de son peuple devient un fossé qui se prolonge à l'infini. Le jugement final du jour de l'Éternel, dirigé contre ce monde rebelle, effacera tout le mal qu'il a fait au travers des siècles au peuple de Dieu, que ce soit les Israélites ou les croyants en Jésus-Christ. Ces châtiments vengeront le sang versé qui jusqu'alors était encore impuni. Par rapport aux autres prophètes, Joël décrit les Israélites du royaume de Juda d'une manière positive. Mis à part la faute qui a provoqué la venue des sauterelles, ils sont fidèles à l'Éternel et marchent dans les voies de la piété. Le temple fonctionne à plein régime, sacrifices et libations sont offerts régulièrement et le peuple s'y rend en masse pour invoquer Dieu. Joël ne fait à Israël aucun reproche touchant la violence, l'idolâtrie ou l'immoralité. Au contraire, les Israélites sont repentants, ce qui amène Dieu à détourner d'eux sa colère et à les compenser pour la destruction causée par les insectes. Concernant l'espérance messianique, le trait saillant de Joël est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit qui fera de tout le peuple de Dieu des prophètes. Dans son intuition prophétique, Joël perçoit les lacunes de l'ancienne alliance et annonce qu'un jour au don de la loi succédera celui de l'Esprit qui seul rend la loi vivante dans les cœurs. Dès le début de l'ère prophétique, Joël a déjà articulé la promesse que Jérémie développera vers la fin de la période prophétique. Joël annonce le jugement des nations, mais il ne parle pas d'un autre jugement, individuel celui-là, quand chacun d'entre nous devra comparaître devant le juge de toute la terre. Alors, tous les péchés commis devront être expiés, et il n'y a que deux possibilités. Soit Jésus apportez les vôtres, soit vous les porterez vous-même.